Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 6 novembre, ensoleillé en plus, sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Lorichès. Bonjour Jean-Yves. Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman intitulé « La loge de mer » et publié aux éditions « Le temps qu'il fait ». Mais avant, la page info avec trois infos. La première étant directement liée à votre émission « Page à page » puisque comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un nouvel horaire. Dorénavant lieu toujours le vendredi en direct sur Radio Occitanie, mais à 14h30 et jusqu'à 15h. Et puis, je continue la page info avec la 25e édition du festival littéraire Lettres d'automne qui aura lieu du 16 au 29 novembre prochain à Montauban et alentour. Tout le programme sur www.lettresdautonne.org, lettres au pluriel, et tout attaché, bien entendu. Et puis, la troisième et dernière info qui concerne directement mon invité, Jean-Yves Lorichès. Donc, c'est un repas lecture musicale qui a lieu vendredi 20 novembre à 19h30 au foyer de l'Aussonnelle qui se situe 5 rue du Boiret à Cornebarieux. Alors c'est une lecture musicale du premier roman de Jean-Yves Lorichès qui s'appelle Place Monge, et au piano vous retrouverez Anna Cogan Lorichès, au violoncelle vous trouverez Mélodie Gio et à la lecture Hyacinthe Carrera. Alors les places sont à réserver et à retirer à la mairie de Cornebarieux uniquement. Donc pour les gens qui habitent à Cornebarieux et les alentours, eh bien je les invite chaleureusement à aller assister à ce dîner lecture musicale autour de ce roman Place Monge de Jean-Yves Lorichès.
Merci.
Page à page, Claire Ambille.
Merci à Guy pour la technique de cette émission. Alors, après Les Brisés, le précédent roman dont vous étiez venu nous parler ici à page, Vous revenez avec La Loge de mer, publié toujours au Temps qu'il fait, Le Temps qu'il fait, une maison d'édition dans la Gironde.
Oui, à Bazas.
Voilà, donc vous êtes fidèles et eux aussi
fidèles.
Voilà, une fidélité réciproque. Alors c'est un très beau roman, comme les précédents, que j'ai beaucoup aimé également, et puis qui était à la limite du réel et de la rêverie poétique, même de la flânerie onirique, pourrait-on dire, avec en prélude une très belle phrase d'André Breton que je vais citer. Il se peut que la vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme.
Oui, tout à fait. Cette phrase qui est extraite en fait de Nadja, d'André Breton, mais qui vaut, je crois, pour toute la conception de la vie qu'avait André Breton. Je l'ai trouvée comme épigraphe en fait après avoir écrit le livre, comme il arrive souvent, parce que je me suis rendu compte rétrospectivement que cette histoire que je racontais dans La Loge de mer était un tissu de signaux, de signes qui apparaissent un peu sous les pas du personnage et qu'effectivement le personnage tente de décrypter.
Et pour trouver un sens
à sa vie.
Tout à fait. Voilà. Et la couverture de ce roman aussi attire le regard. Là, par contre, donc, c'est une huile sur toile d'Edouard Munch.
Oui.
Et qui s'intitule Mélancolie.
Oui, voilà.
Et qui donne le ton un peu aussi
à ce
roman où on trouve eh bien de la peinture, des tableaux, on va le voir aussi, de la poésie, de la mélancolie donc d'une certaine façon, mais aussi de la paix et de la sérénité. J'ai trouvé comme après une tempête en mer.
Oui.
Et justement, la mère est également présente dans ce roman. Mmh. On va le découvrir ensemble. Et puis, à signaler aussi que ce roman est composé de 3 parties. La première s'intitule « Un retable », la seconde « Sur les toits ». Et la troisième et dernière, c'est Le Port. Et puis j'ajouterais également que c'est un roman un peu en demi-teinte, en clair-obscur, si je puis dire, en parlant peinture, puisque ça parle de peinture aussi. Et avec un mélange de... avec une intrigue également qui est mélangée à la déambulation du personnage principal.
Oui. Donc c'est effectivement une... C'est une déambulation dans une ville, hein, de...
Oui, on va le voir.
Le personnage principal arrive dans cette ville et finalement on le suit à travers cette
ville. Qui n'est pas cité, voilà, la ville n'est pas citée.
Dont le nom n'est pas cité, mais qui, dans mon esprit, a quand même un modèle, en tout cas, une référence, si on peut le dire.
Et puis que peut-être les lecteurs qui connaissent cette ville la reconnaîtront.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Alors justement, le personnage principal s'appelle Hermann. Et c'est on découvre au fil de la lecture, je pense qu'on peut quand même le dire, parce que ça a son importance, que c'est un ancien peintre. Mmh. Et donc, cela se passe à l'automne, donc une arrière-saison. Et il arrive donc en train de nuit et au hasard dans une petite ville médiévale du sud, et non loin de la mer et non loin d'une frontière. Alors, comme on le disait, la ville ne sera pas citée. Et c'est une ville qu'il ne connaît pas du tout.
Oui, voilà, c'était... alors justement, l'enjeu, c'était peut-être d'évoquer une ville qui à moi, m'est familière, mais justement, en la mettant à distance, considérant à travers le regard d'un étranger, parce que justement, je voulais que cette ville devienne une ville aussi, un peu, vous l'avez dit, un peu onirique ou poétique, ce qui supposait, c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle je ne tiens pas à la nommer dans le texte, en tout cas.
Oui, il faut
c'est un peu aussi comme ces villes qu'on voit dans les tableaux, dans les retables, par exemple, qui sont des villes en partie imaginaire, en partie réel, et voilà, c'est la ville devient finalement...
Oui, il faut laisser un peu le mystère aussi, parce qu'il y a aussi un peu du mystère aussi dans ce livre. On va le découvrir au fur et à mesure. Alors justement, au cours de ces premières déambulations dans cette ville inconnue, eh bien Hermann, le personnage principal, est attiré, on va dire par hasard ou naturellement, on ne sait pas, vers le musée de la ville, et plus particulièrement devant un retable, et ce tableau va exercer une fascination, une attraction sur Hermann.
Oui, mon personnage Hermann est peintre, ou était peintre, enfin voilà, donc il a chez lui une prédilection pour le domaine du visible et évidemment pour l'art, donc c'est sans doute pas tout à fait un hasard s'il va dans ce musée.
C'est pas l'amène au musée.
Même si en même temps il y va de manière un petit peu désenchantée, parce que justement la peinture est plutôt derrière lui. Et en fait, il ne s'attend pas particulièrement à une révélation. Or, effectivement,
il va avoir cette attraction.
Ce retable, et en particulier cette partie du retable qui représente donc une ville du 15e siècle, le fascine.
Alors justement, voilà, donc c'est un retable du 15e siècle, et au premier plan, on peut voir, donc c'est une scène religieuse, et puis au second plan, donc en dessous, et c'est là que j'ai appris la signification du mot près d'elle.
Près d'elle, oui.
Ah oui, je ne connaissais pas ce nom, ce mot, donc je l'ai appris grâce...
Un joli mot d'ailleurs.
Oui, très joli, et grâce à ce roman, Jean-Yves, voilà, je sais maintenant de quoi il s'agit. Et donc dans cette près d'elle, il est peint un navire à voile blanche en perdition dans une tempête, avec des passagers qui sont en prière pour être épargnés. Et puis sur la côte, côté ville donc, se dresse une halle avec des marchands qui vaquent à leurs occupations, à leurs affaires, ignorant totalement le drame qui se joue sur la mer.
Oui. Alors effectivement, c'est un tableau, puisque c'est un tableau en fait.
Oui.
Voilà, une près d'elle, donc c'est la partie basse du retable qui constitue un grand tableau horizontal.
Coupé au milieu,
parce que sans doute fait de deux panneaux de bois, et donc on voit la limite des deux panneaux.
Tout
et il se trouve que cette limite départage de manière très, en même temps très significative, très symbolique, le côté mer qui est voué à la tempête, voilà, et peut-être au naufrage, et puis le côté ville qui est voué au commerce.
Voilà, que, où voilà, tout se déroule, voilà, de façon ordinaire, normale.
La vie rassurante et paisible.
Tout à fait. Alors, on apprend dans la lecture également que Hermann a quitté donc sa ville, son appartement, qu'il a vendu ses dernières toiles. Et il dit d'ailleurs, enfin, on nous dit d'ailleurs, sa disponibilité était donc totale, mais elle était aussi cruelle, car elle le laissait face à lui-même.
Oui, cette disponibilité, elle est importante, parce que c'est justement parce qu'il est disponible, parce qu'il est vacant, parce que peut-être il est dans une phase un peu dépressive de son existence, qu'en même temps, il est sensible à ce qui peut survenir,
ce qui
peut surgir, voilà, aux rencontres, aux coïncidences.
Tout à fait, voilà. Et qu'il voit des signes, voilà, voit des signes à chaque fois. Voilà. Alors, il fait aussi des rêves, il fait beaucoup de rêves, oui, dans ce... on les découvrira au fur et à mesure. Je laisse le suspense pour le lecteur, mais voilà, il fait beaucoup de rêves, Hermann, et il les note d'ailleurs dans un carnet.
Oui.
Et puis, il se balade aussi beaucoup, donc au hasard des rues et des ruelles de cette ville inconnue. Et en même temps, nous aussi, on se balade avec lui et on découvre les rues et les ruelles de cette ville. Et puis, il est dit, il marchait dans la légèreté de n'avoir aucun but. C'est ça, c'est cette vacance, cette disponibilité. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la description, la belle description du bâtiment ancien où se tient la bibliothèque de la ville et où d'ailleurs Hermann va se rendre afin de trouver des informations sur ce fameux tableau du musée. Et c'est là qu'apparaît justement le titre, enfin, que c'est là où le titre du livre, La Loge de Mer, prend tout son sens et sa signification. C'est avec l'évocation de cette halle.
Voilà, parce que la Loge de Mer, effectivement, c'est une expression peu connue, hein, parce qu'il y en a. Mais c'est une expression historiquement attestée, puisqu'il y a quelques bâtiments, peu en France, mais plus en Italie, de la Renaissance, donc, qui portaient ce nom et qui étaient des sortes de tribunaux des affaires maritimes où on réglait les contentieux, les conflits autour des questions de commerce maritime. Et donc, c'était toujours évidemment dans des villes proches de la mer, commerçantes, etc.
Ouais.
Voilà. Et on appelait ça la Loge de Mer, ce qui est déjà en soi une très belle expression.
Voilà. C'est une très jolie expression. Donc, voilà l'explication donc, du titre du roman. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le deuxième personnage important de ce roman. Si je puis dire, c'est Elena, la bibliothécaire, qui va le renseigner sur le tableau qui l'intéresse et qu'elle connaît elle aussi d'ailleurs, et qu'elle lui dit même qu'il a une malédiction qui serait rattachée. Et puis alors, on nous précise aussi que nulle séduction du côté d'Hermann avec « il était à court de désir », il n'y a pas de désir de séduction de sa part pour Elena. Et ensuite, Hermann, qui est désœuvré, va aller au cinéma, tout à fait par hasard aussi, et il va tomber sur la projection d'un film italien. Et il dit d'ailleurs, on nous dit d'ailleurs, le film était récent alors qu'il croyait le cinéaste mort depuis des années.
Oui.
Ça, c'est assez amusant, j'ai trouvé.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça correspond à une réalité, on peut peut-être quand même le dire. C'est un film d'Antonioni. Mais c'est le tout dernier film d'Antonioni. Antonioni n'avait plus tourné depuis assez longtemps. Il était devenu aphasique, donc il ne pouvait plus diriger. Et en fait, il a tourné un dernier film qui a été réalisé, parce que lui ne pouvait pas diriger, par Wim Wenders. C'est un film qui s'appelle Par-delà les nuages.
C'est un très joli titre, d'ailleurs.
Voilà,
et alors, donc, ce film, donc, sur fond de mer agitée, sur fond de port italien, et puis d'histoires multiples, il y a plusieurs histoires. Et puis, donc, Hermann va revoir Elena au hasard d'un café. Alors, Elena qui va l'inviter chez elle avec son frère Henrik, un personnage assez plutôt antipathique. Et puis... plutôt antipathique. Et puis, on assiste à la magie du feu de cheminée, où on peut lire « Quand il y porta la flamme d'un briquet, le fond de la cheminée s'éclaira, dans la d'une lumière triomphante qui était comme une première victoire sur les ténèbres. C'est ça la magie du feu.
Oui,
c'est cette,
je pense que beaucoup de, d'entre nous peuvent le, s'y reconnaître.
Ah oui, 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 c'est cette flambée, là, ces couleurs chaudes. C'est vrai que
c'est aussi peut-être
magie.
Un espoir qui arrive dans un présent assez désenchanté pour le personnage et à travers cette rencontre d'un personnage lui-même assez tourmenté qui est Elena. Mais quelque chose, effectivement, comme une lumière, finalement, apparaît à ce moment-là, comme la possibilité de,
voilà,
peut-être
impossible.
D'une remontée à la surface.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, il est aussi question de... Il est aussi question donc sur de poésie sur le Rhin notamment puisque Hermann est originaire de cette région et puis les questions aussi de l'histoire de l'hôtel particulier où habite Elena et qui fait penser d'ailleurs au tableau toujours cette résonance avec ce fameux tableau qui est d'une certaine manière un personnage à part entière un personnage important de ce roman. Ce retable
tout
du XVe siècle.
Alors, ce retable, c'est ce qui fait le lien entre Hermann et Elena. Effectivement, ce n'est pas, vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, il s'agit d'une rencontre de deux êtres qui, quelque part, tout de même, vont s'entendre, vont se rencontrer sur, entre autres, par exemple, sur cette relation au retable, sur un certain, peut-être, mal de vivre aussi, pour des raisons différentes de l'un et de l'autre.
Ouais.
Et vont se... s'apporter mutuellement quelque chose de l'ordre de la sensibilité, en fait.
Oui, tout à fait, parce qu'ils se rejoignent sur la poésie, sur l'art, sur beaucoup de choses. Puis alors, j'ai aimé, alors, il y a un clin d'œil qui m'a beaucoup plu, parce que moi-même, ça m'a rappelé aussi un souvenir d'enfance, le baromètre de son enfance, la maisonnette où alternaient les sorties d'un monsieur en costume gris et d'une femme en robe rouge, destinée à ne jamais se rencontrer.
Voilà, c'est un peu, effectivement, l'image même de quelque part de cette rencontre
aussi,
qui en même
oui.
temps est une rencontre inachevée, inaboutie, mais qui tout de même produit un effet en particulier sur la vie d'Hermann. Et c'est aussi, vous parliez de clair-obscur, c'est aussi le jeu entre le soleil et la pluie, y compris dans la météorologie d'ailleurs, de la ville elle-même.
Et justement, en parlant de pluie, je cite, « Sous le parapluie d'Elena, Il se sentait devenir peu à peu un autre que ce voyageur épuisé qui la veille avait débarqué sur le quai d'une gare inconnue. Et puis alors il y a ce rêve d'Hermann de se retrouver enfermé au musée, mais l'électronique protégeait désormais les œuvres d'art contre les rêveurs impénitents.
Oui, ça c'est un rêve, tout à fait. C'est un rêve
d'être enfermé
pour avoir à soi tout seul les œuvres d'un musée.
Oui,
c'était possible il y a très longtemps.
Oui, mais puis maintenant, à cause de l'électronique, du développement de la technique. Puis en regardant toujours donc la pluie, on peut lire « Il suivait des yeux la trajectoire capricieuse des gouttes sur la vitre, comme si elles y traçaient la carte de sa vie. » Je trouve très imagé et très porteur de messages.
Oui, je crois que Hermann, dans ce livre, est effectivement en quête, en tout cas, de la carte de sa vie à venir. Parce qu'il est en panne d'existence, en fait.
Il est entre deux.
Et c'est cet entre-deux qui aussi se matérialise dans le retable lui-même, hein, entre la mer et la ville, entre la tempête et l'apaisement.
Et puis son rapport donc avec Elena, qui lui raconte, donc il se revoit encore, et elle lui raconte cette fois son histoire familiale, qui elle aussi a son importance, avec la mort de ses parents lors d'une croisière. Donc la mère, là aussi, toujours a son importance, puisqu'on peut lire « Cette mère d'Italie où s'était abîmée leur innocence », donc l'innocence d'Elena et de son frère Henrik.
Oui, la mère est très présente, elle est présente... je dirais matériellement, parce qu'elle n'est pas très loin de la ville et même vers la fin du livre, elle est tout près puisque personnage s'en rapproche. Mais elle est très présente aussi dans le retable, dans les séquences du film également.
Oui, le film italien,
voilà, elle est omniprésente, comme une présente à la fois... qui peut être menaçante, mais qui peut devenir apaisante aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et puis donc, Hermann, en pensant à Elena, on peut lire, il commençait à la connaître assez pour deviner que la vie ordinaire ne la contentait pas, que quelque chose l'appelait. Et ouais. C'est un peu en résonance avec sa propre vie à lui.
Oui, il y a une, il y a une exigence chez l'un et chez l'autre. Mmh. Il y a une exigence par rapport à l'existence, exigence qui est évidemment susceptible d'être déçue. Hein. Donc ce sont aussi des êtres qui sont marqués par une forme de mélancolie.
Tout à fait. Et alors donc, sans raconter toute l'histoire, mais à un moment ça se corse, parce qu'il y a un coup de feu qui éclate dans un miroir. En plus, je trouve que l'idée du miroir a son importance dans le miroir donc, d'un café où sont justement attablés Herman et Elena. Et alors, comment vont-ils se retrouver sur une terrasse en haut d'un immeuble ou à dominer les toits où on peut lire « Il était perdu dans un paysage de toits ». C'est vrai que ça a un côté magique d'être en haut d'un immeuble des toits à perte de vue.
J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette séquence des toits parce qu'il y a effectivement une autre manière de parcourir la ville à un autre niveau qui est complètement différent parce qu'il n'y a plus d'habitants en fait.
Et, en même temps,
il y a toute la structure de la ville.
On est quand même au cœur de la ville.
On est en même temps dans la ville.
Et justement, le rêve d'enfant d'Elena, c'était de marcher sur les toits. Voilà. Et d'ailleurs, on peut lire « Quand il se redressa, toute la ville se déploya autour d'eux comme une rose des vents. » Moi, je trouve ça...
C'est l'ouverture de l'espace.
Oui,
ce sont des descriptions très
imagées. Et puis, donc, les événements vont se succéder. Mais donc, je laisse le suspense au futur lecteur. Et Herman se sent dans une sorte de dédoublement. Il est comme spectateur de sa propre existence. Et de sa fenêtre d'hôtel, d'ailleurs, il devine celle d'Elena et il l'imagine. Et on peut lire cette très belle évocation, justement, de la rêverie dont on parlait tout à l'heure. Dans cette attitude de rêverie qu'il aimait, parce qu'elle manifeste le passage d'un être sur l'autre bord du réel, là où commence une région accessible à lui seul et dans laquelle il trouve enfin sa liberté. Bah, je trouve que c'est une très belle évocation, voire définition de cet état de rêverie qu'on peut avoir parfois, enfin que tout un chacun peut avoir.
Qui est aussi celui du lecteur, je crois.
On se laisse porter.
C'est aussi ce qu'on cherche dans la lecture.
Puis dans ce roman, à la lecture de ce roman, on se laisse porter justement par cet état de rêverie. Et puis il y a un passage aussi. Qui m'a plu aussi, c'est le regard d'Herman avec l'écureuil du jardin public. Ouais. Et quand il dit justement, quand on peut lire, il était donc possible de vivre dans la pure légèreté de l'être, la grâce du présent.
Aussi, c'est un signe, c'est ce type de micro-rencontre, d'événements, de micro-événements comme. Le face-à-face avec un animal, face-à-face inattendu, comme ça, avec un petit animal sauvage.
Oui, qui est présent, là, maintenant, tout de suite.
Voilà, et quelque chose se produit et quelque chose, du coup, aussi se révèle, de ce que peut être l'existence.
Tout à fait. Toucher du doigt un peu le cœur même de l'existence.
Du présent.
Et puis, Herman aussi a le sentiment de vivre donc dans un espace double, en errant dans une ville réelle et une ville peinte, et qui est la même ce tableau et la ville dans laquelle il a choisi d'arriver.
Il y a une sorte de dédoublement qui fait que la ville peinte devient quelque part réelle. Dans ses rêves, il la parcourt comme une ville réelle. Et la ville réelle devient onirique
par tous les signes. Voilà. Et puis donc la troisième partie de ce roman qui s'intitule Le Port, un nom bien choisi parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il se rapproche de plus en plus de la mer. Et donc ce port qui rappelle forcément qu'il y a une résonance dans le film italien et également dans le tableau aussi, dans le retable. Et puis... d'ailleurs, dans ce petit port, il est dit là où c'est pas cité non plus, on n'a pas de nom qui est cité, et on nous dit juste là où les montagnes plongent dans la mer. Donc on imagine tout à fait le paysage.
C'est comme dans le tableau, c'est toujours cette partition de l'espace entre la mer et la terre.
Tout à fait, c'est ça. Et donc un refuge aussi, donc il va séjourner quelque temps donc dans ce port, dans un refuge avec une fenêtre qui donne sur les toits et la mer. Donc il a ces deux lieux de prédilection, dirais-je, à portée de regard. à portée de vue.
La géographie est très importante pour moi, enfin, les paysages. Et là, par exemple, cet endroit effectivement, où la montagne plonge dans la mer, c'est aussi... Enfin, c'est à la fois l'idée d'une sorte de fusion, d'union des deux, et en même temps aussi peut-être la montagne qui se perd dans la mer. Enfin, il y a toujours quelque chose comme une menace aussi. Enfin,
oui,
on peut le voir de différentes manières. Voilà.
Oui, parce qu'à un moment, on nous dit, il est écrit, regardant sur le mur, devant lui, sur lequel voilà, commençaient à se former les mots d'un avenir encore incertain. Voilà. Il ne sait pas ce qui va se passer, et nous, le lecteur non plus d'ailleurs, hein, on le découvre à la lecture au fur et à mesure. Et donc lui-même ne sait pas ce que va être son avenir.
C'est comme ça que j'écris aussi. C'est-à-dire que pour écrire surtout les livres de fiction, c'était la même chose pour un précédent livre pour lequel vous m'aviez invité, L'hiver en Arcadie.
Ah oui.
C'est toujours aussi, moi-même, je ne sais pas au début ce qui va arriver au personnage et même en cours d'écriture, les choses.
C'est lui qui me guide.
Voilà, ce sont ses rencontres, ces rencontres avec des êtres ou avec des objets, avec des animaux, avec des tableaux, avec des livres parfois qui déterminent l'orientation de son parcours. Et je le découvre en même temps que lui. C'est ça qui me fait écrire aussi. C'est le désir de savoir ce qui va lui arriver.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il lit aussi de la poésie. Et j'aime beaucoup cette phrase. Il s'habillait de mots comme pour un autre voyage. Mmh. Et voilà, on peut deviner un autre voyage. D'ailleurs, bon, la fin ne laisse pas indifférente. La fin de ce roman ne laisse pas indifférent. C'est une fin avec une résonance toujours avec ce film italien et puis vu par Herman et Elena d'ailleurs, par les deux. Et puis c'est une fin comme la fin d'un rêve un peu ou le début d'un rêve. Enfin bon, c'est un peu à chacun d'y voir ce qu'il veut. Et c'est un très beau roman, donc avec un mélange de réel et de rêve, comme je le disais au début, moi qui m'a fait penser eh bien, à Gérard de Nerval ou même à Alain Fournier dans Le Grand Maulne avec toutes ces descriptions de... de paysages. Bon là, en l'occurrence, c'est la mer.
Oui,
hein,
mais c'est un peu pareil. Il y a le domaine de la réalité et puis le domaine de l'enchantement
ou de la rêverie.
Hein.
Voilà, tout à fait. Et donc, à la belle écriture qu'on retrouve avec grand plaisir dans ce roman également. Et puis, où donc la peinture et les tableaux, où la peinture, oui, dessine aussi, et les paysages de mer dessinent eh bien, un tableau, une esquisse de vie, d'espoir aussi, de voyage, de...
D'ouverture. J'ai voulu que le livre soit ouvert.
Eh bien, tout à fait. Ben, c'est très réussi. Alors donc, après La Loge de mer, d'autres projets d'écriture, Jean-Yves ?
Oui, il y a un projet en cours dont je ne peux pas dire grand-chose parce que justement, il s'invente au fur et à mesure.
Oui.
Mais ce que je peux dire quand même, c'est que c'est une fiction à nouveau, donc comme celui-ci.
D'accord.
Alors que d'autres livres sont...
Dans un autre lieu.
Et qui se passe dans des lieux différents, mais quand même avec le point commun, ce sera quand même qu'il y a aussi un personnage comme ça, central, qui, à travers lequel je vais au-devant d'un certain nombre de découvertes, d'événements, de lieux.
Dans la vie, dans des lieux,
c'est un petit peu une sorte de troisième volet avec L'hiver en Arcadie, qui déjà mettait sur la route un personnage. Donc c'est quelque chose qui... me stimule du point de vue de l'écriture, cette idée d'un personnage qui va, je crois que c'est un grand ressort du roman, c'est de manière générale. Hein, voilà.
Vous le racontez avec de tellement belles images et des jolis mots que forcément on est entraîné avec le personnage et avec vous. Et donc on aura l'occasion de se revoir ici à page sur Radio Occitanie pour en parler.
Et puis je
signale aussi que vous serez au salon d'hiver de Montgiscard le 17 janvier prochain avec donc ce livre, La Loge de mer, édité aux éditions Le Temps qu'il fait. Alors, petit rappel, rediffusion ce soir à 23h30 de cette émission avec Jean-Yves Lorichès et La Loge de mer. Prochain rendez-vous de Page à Page, c'est vendredi 20 novembre à 14h30, donc nouvel horaire. Et sur Radio Occitanie, je recevrai Marie-Constance Mallard et Violette Mirgue, une adorable petite souris et sa nouvelle aventure. Merci beaucoup Jean-Yves
pour
votre fidélité à cette émission et pour ce très beau livre, La Loge de mer, que je recommande chaleureusement à nos auditeurs. Et merci encore à Guy pour la technique de cette émission et restez à l'écoute des programmes de Radio Occitanie. Adiciats.
Page à page, l'émission du livre, proposé et présenté par Claire Ambille.